Bonjour David, bonjour à tous. À Thouars, les pistes cyclables sont sur les rails. Les travaux vont encore durer 18 mois, mais ce sont 7 km de pistes qui vont être créées. Philippe Durand vient présenter demain à Bruy-Chaussée son travail sur le Larzac, un spectacle présenté dans le cadre des 20 ans de Terre de Liens. Le Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais a fait sa rentrée ce lundi avec près de 700 inscrits. Le conservatoire rayonne sur tout le territoire. La maquette ferroviaire de Bressuire fêtera ses 10 ans à l'occasion des Journées du patrimoine. Elle permet de se replonger dans les années 50. La préparation de Cholet Basket a été tronquée par le Covid. L'équipe aura peu de repères avant de recevoir Roanne samedi. À Thouars, les travaux des pistes cyclables sont lancés un an et demi pour créer 7 km de pistes cyclables. Le chantier a démarré en sous-sol et il se poursuivra par une véritable refonte esthétique et fonctionnelle de deux axes principaux. Pour le vélo, mais pas seulement, comme l'explique le maire Bernard Pénaud au micro-colline de Dominique Hérault.
On est sur un enjeu écologique, un enjeu de déplacement doux et donc de pistes cyclables, mais on en profite pour requalifier 7 km 200 de route sur Thouars, sur Sainte-Verge et sur Louzy, avec des travaux qui contiennent du cyclable bien sûr, mais qui contiennent du verdissement, qui contiennent de l'embellissement, du confort, etc., de la sécurité, qui contiennent de l'enfouissement de réseaux, l'eau, l'électricité, le gaz, l'assainissement, le département qui va refaire des tapis d'enrobés. Le début des travaux, c'est maintenant. Et la fin des travaux, c'est la fin de l'année 2024. Cadeau de Noël, 2024.
Un cadeau à 8 millions d'euros au total, les seules pistes cyclables coûtant un peu plus de la moitié. L'ensemble est d'ailleurs assez largement subventionné par l'État. L'élu chargé de la voirie thoircaise, Bernard Noirot, lui-même pratiquant inconditionnel du vélo, nous détaille le chantier les yeux fermés.
Alors là, donc, il y a 4 phases de travaux. Hein. La première se situe donc sur la route de Saumur de chez Butte, donc au Crédit Agricole. La deuxième, donc, c'est le boulevard 8 mai, la Libération, jusqu'à Maltais. La troisième, c'est le long de la ligne de chemin de fer, hein, donc la rue de la Gatini, Frédéric Chopin. Et puis la quatrième, bah, c'est l'avenue Émile Zola, Victor Leclerc, jusqu'à la place Lavaux. Et les pistes cyclables, elle est à double sens, donc, sur la route de Saumur, de chez Butte au Crédit Agricole. Ensuite, elle est également aussi sur le boulevard de la Libération, 8 mais elle est aussi à double sens, mais sur une voie, un côté de voie départementale qui lui sera supprimé. Et donc là, on a la piste cyclable, le cheminement piéton. Là, c'est un vrai aménagement paysager. Sur l'avenue Émile Zola jusqu'à la place Lavaux, là, on a donc une circulation de chaque côté, à sens unique, mais de chaque côté de la voie centrale.
Les rues de la Quintini, Frédéric Chopin, qui remontent le long de la voie ferrée pour aboutir à la rue à Camille Pelletan, ces deux rues auront droit à un traitement spécial avec un chaussi doux, c'est-à-dire une voie centrale à partager entre les voitures et les vélos, avec priorité à ces derniers. Un chantier suivi par Dominique Hérault, notre correspondant sur le Thouarsais. Terre de Liens fête ses 20 ans vendredi soir avec un spectacle qui va faire écho à son action. Philippe Durand présente Larzac, une pièce de théâtre de petite forme avec un seul comédien en scène faisant le récit de ce qui se passe aujourd'hui sur le plateau du Larzac, la vie de ses habitants et celle de l'outil de gestion collective des terres agricoles auxquelles il participe. Une aventure sociale qui montre aussi qu'une autre agriculture est possible, bien loin d'une agriculture intensive. Philippe Durand.
Je suis allé rencontrer les habitants et les paysans du Larzac Nord, qui est donc ce territoire autour du camp militaire du Larzac, d'où est née la célèbre lutte des années 70. J'interviewe les gens et à partir de cette matière, je construis un récit que je transmets ensuite aux spectateurs. L'État était propriétaire de 6300 hectares après l'abandon du projet d'extension du camp militaire. Et l'État s'est entendu avec les paysans et les habitants du Larzac Nord pour confier ces terres à une société civile immobilière qui loue ce territoire à l'État. Et c'est eux qui gèrent depuis 40 ans cet espace. Il y a deux piliers dans ce système de fonctionnement. Il y a la valeur d'usage et le bail de carrière. Alors, la valeur d'usage, c'est une valeur qui est déconnectée du prix du marché. C'est juste la fonctionnalité de la ferme. Et le bail de carrière, quand un paysan rentre dans une ferme, il y a accès jusqu'à sa retraite. C'est exactement le même fonctionnement pour Terre de Liens. Mais par contre, à la retraite, il sait qu'il doit quitter la ferme et qu'elle va être reprise par la suite par un jeune. Et de ce système, depuis 40 ans, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est le seul endroit où il y a plus de paysans aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80. Et dès qu'une ferme se libère, il y a toujours une flopée de candidatures.
Philippe Durand de la compagnie 1336 ce vendredi à la salle La Broglienne de Bruy-Chaussée à partir de 20h pour les 20 ans de Terre de Liens. Terre de Liens qui a racheté 3 fermes ces dernières années sur le bocage bressuirais. Elle regroupe des citoyens qui investissent un peu d'argent, non pas avec le but de le faire fructifier, mais avec la volonté d'installer une génération de paysans débarrassés de la pression foncière. Le Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais a fait sa rentrée ce lundi. Les cours ont repris cette semaine dans les 6 lieux dédiés à l'enseignement de la musique et au chant avec 30 profs dont 2 nouveaux. Le maillage territorial est justement l'une des clés du succès d'un conservatoire qui compte autour de 700 inscrits en cette rentrée et 80% d'entre eux sont des enfants. Le rayonnement est même un peu plus large si l'on inclut les interventions en milieu scolaire. Marie Jarry, vice-présidente de l'Aglo de B, en charge de la culture.
L'éducation musicale en milieu scolaire, ce sont 1300 heures qui sont données chaque année dans les écoles. Ce sont les mairies qui participent financièrement. C'est une approche aussi de la musique. Nous avons des dumistes qui se déplacent dans ces écoles justement. Et puis nous avons aussi un autre volet dont nous sommes très fiers au Conservatoire et à l'Aglo. Ce sont les orchestres à l'école. Et au total, quand on calcule, ce sont environ 5000 enfants qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par la musique.
Le Conservatoire de musique a donc fait sa rentrée avec des salles de pratique qui ont été renommées. Stéphanie Pinault-Coulon, la directrice.
Nous changeons les noms des salles puisque jusqu'à maintenant, en fait, les noms de toutes nos salles de cours portaient des noms de compositeurs, alors souvent des compositeurs décédés en plus, et uniquement des hommes. Aujourd'hui, il s'agit de passer au 21e siècle, donc bien sûr mettre en valeur la diversité musicale, le monde du jazz, des musiques actuelles, de la chanson, et puis bien sûr que la junte féminine soit représentée elle aussi.
Alors quel nom pour ces salles ?
Alors, Michèle Bernard, une grande dame de la chanson française, Didi Bridgewater, la chanteuse Björk. Voilà, on a vraiment cherché avec le collectif des profs à renouveler tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les salles à Bressuire commencent par un nom donc, d'artiste avec la lettre B, sur Cerizet avec la lettre C. Donc on retrouve la chanteuse Camille, par exemple, à Cerizet, ou bien le chanteur M à Mauléon.
Stéphanie Pinault-Coulon, la directrice du Conservatoire de musique de l'Aglo de B. Ce sera l'une des visites à ne pas manquer en ce week-end des Journées européennes du patrimoine. Installée dans l'ancienne gare de fret de Bressuire, la maquette ferroviaire fête ses 10 ans et en profite pour ouvrir ses portes dès 14h. Lors de ce week-end des 16 et 17 septembre, c'est à Jean-Pierre Cucci que l'on doit cette maquette ferroviaire réalisée au 160e. Elle représente la gare dans son quartier telle qu'elle existait dans les années 50. Jean-Pierre Cucci est au micro de Jacqueline Pinon.
Lorsque le maire a parlé de le faire, j'avais au départ fait un petit peu de modélisme ferroviaire. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus avec un groupe d'amis. Toutes les maisons qui sont représentées sont 160 fois plus petites que celles qui existent à l'heure actuelle.
Avec cette gare.
Parce qu'en 1950, le rail était très important. 450 cheminots qui travaillaient, aujourd'hui ils sont 5 ou 6. À l'abattoir et avec les entreprises qui tournaient autour, comme le cuir, les boyaux et le dolo, bien sûr, ça représentait 450 personnes. Aujourd'hui, à l'abattoir, ils sont 45.
La maquette ferroviaire de la gare de Bressuire, agrémentée des principaux monuments de la ville, dont les halles style Baltar, qui n'existent plus aujourd'hui, sont à voir ce week-end des 16 et 17 septembre dès 14h dans l'ancienne gare de fret de Bressuire à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Dans ce cadre, la commune de Combran propose samedi et dimanche une exposition à la salle du millénaire pour présenter les photos rappelant l'artisanat et le commerce autour du bourg dans les années 60. Le public est invité pour le vernissage de l'expo samedi à 11h. L'expo sera ensuite visible de 14h à 18h le samedi et le dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. La préparation de Cholet Basket tronquée par le Covid, alors que le championnat débute samedi et la réception de Roanne à 16h, CB a dû composer avec le Covid. Plusieurs joueurs de l'effectif ayant contracté le virus, le club a annulé sa participation au tournoi de Luxeuil le week-end dernier et n'a donc pas disputé de match de préparation depuis début septembre. Pas idéal, mais Laurent Villa, l'entraîneur, fait avec, comme il l'a dit au micro de Vincent Norrie.
On n'a pas trop de certitudes sur notre niveau, mais on a plein d'ambition et donc on a vraiment hâte, comme je disais, de reprendre et commencer cette compétition qui, à mon avis, va être très difficile cette année. Très engagé.
De l'excitation, on comprend. Un peu d'inquiétude aussi ou pas ?
En fait, l'idée, c'est d'habitude de s'évaluer sur une progression par rapport à des matchs amicaux. L'an passé, à la même date, on était à Luxeuil. On venait de battre Strasbourg par rapport à un match très difficile, très dur. Et on avait battu en suivant Dijon. Là, ça fait 10 jours qu'on n'a pas joué. Le dernier match, c'était contre Le Mans à Vannes et c'était compliqué. Et donc, bon, voilà, il y a de l'incertitude. Inquiétude, non, parce que ça sera un premier match. On a une belle équipe, on a des joueurs qui s'engagent. Mais bon, voilà, on aurait aimé faire deux dernières semaines plus complètes, plus abouties. Donc on verra bien.
Laurent Villa, le coach de Cholet Basket, avant l'ouverture du championnat Betclic Elite samedi face à Roanne. Le match sera à suivre en direct sur Colline avec François Larue et Sylvain Schwartz. Coup d'envoi à 16h.